Les conséquences concrètes, c'est que le niveau de la mer morte remonterait. Ce serait un intérêt pour les populations en termes historiques, puisque c'est un patrimoine essentiel à l'humanité dans cette région. Ce serait l'intérêt aussi économique, puisque si le niveau de la mer morte remonte, eh bien, on peut espérer continuer, par exemple, l'exploitation aujourd'hui qui est faite industrielle de ces eaux, mais qui est contestée puisque effectivement, elle a pour conséquence de réduire la quantité d'eau de la mer morte disponible. Donc, un intérêt politique, puisque ça permettrait de montrer que finalement, ces peuples qu'on dit sans arrêt en confrontation, eh bien, sont capables de coopérer ensemble. Et le quatrième intérêt, ce serait espérer que la teneur du projet, qui effectivement intégrerait un volet dessalement, puisse là aussi bénéficier aux populations qui aujourd'hui manquent cruellement d'eau dans cette zone.
Alors justement, projet de dessalement de l'eau, c'est un sujet de tension dans la région, celui de l'eau potable.
C'est une alternative pour trouver davantage d'eau face à justement à la pénurie ou au manque d'eau dit naturelle. En revanche, le dessalement n'est pas sans risque. Il y a les risques d'ordre environnementaux. Lorsqu'on fait tourner une usine de dessalement, en général, celle-ci est alimentée via de l'énergie thermique et fait parfois appel donc à du pétrole ou à du charbon, donc c'est pas tellement écologique. Deuxièmement, il y a le risque de rejet dans la mer. Voilà, donc ça c'est la première problématique. La deuxième qui est assez spécifique à cette région, sachant qu'aujourd'hui c'est la région du monde, le Proche et le Moyen-Orient, qui abrite la plus forte concentration d'usines de dessalement, c'est le risque sécuritaire. Le dessalement, une chance, mais un risque.
Est-ce que si justement le projet aboutit, ça peut donner l'impulsion à plus de coopération sur d'autres projets de partenariat dans la région ?
C'est l'idée sous-jacente finalement de cette thématique de la coopération autour de l'eau, c'est qu'elle puisse avoir un effet d'entraînement. Ce serait un exemple réussi s'il aboutit et que dans la foulée, il puisse permettre de régler d'autres problèmes en montrant qu'on est capable de coopérer sur un projet concret. Mais ce qu'on oublie de dire dans cet accord, c'est que il est loin, encore une fois, d'être réellement mis en place parce que on a oublié la dimension juridique du conflit. Aujourd'hui, les Palestiniens disent pourquoi pas arriver vers ce projet si ça permet effectivement de sauver la mer morte. Mais pourquoi les Palestiniens peuvent être a priori concernés alors qu'aujourd'hui seuls les Jordaniens et les Israéliens réellement exploitent la mer morte? Parce qu'ils sont géographiquement et politiquement riverains de la mer morte, puisqu'elle est riveraine de la Cisjordanie, aujourd'hui illégalement occupée par Israël. Donc si demain il y a un État palestinien, dans les limites de 67, cet État palestinien aura pour frontière la mer morte. Et donc les Palestiniens seront un des trois acteurs, un des trois co-riverains de cette mer morte. Mais aujourd'hui, les Israéliens ont accepté ce projet, mais ils n'ont rien dit sur cette dimension juridique. Et donc aujourd'hui, on tente un peu de la mettre sous la table, de l'enfouir, mais elle risque de ressurgir à tout moment. Et par ailleurs, c'est un accord qui est accepté par l'autorité palestinienne, qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein de l'ensemble de la population palestinienne.